hombre de Mbujima et au Kasai oriental. Je répète totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Nous vous proposons le premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Et merci de votre fidélité. L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, a déclaré à la presse le mercredi 4 septembre dernier qu'après le succès militaire des FRDC et des forces de la MONUSCO sur les M23, il y a une fenêtre pour le progrès politique. Que faudra-t-il pour faire avancer le processus de pacification de la région? Composez le 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nous disons merci à Titi, Pierrot et Paul Badianiam qui réalisent cette émission et Gilles Lungembo vous la présente sous la coordination donc de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons associé dans ce débat Dominique Wert, qui est analyste politique, qui est avec nous et va répondre à toutes nos préoccupations en direct de nos studios de Bukavu. Dominique Wert, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui. Oui, bonjour, bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Dominique, d'aucuns pensaient que la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba était une panacée. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais non, pas complètement. Maintenant, l'accord cadre d'Addis Abeba était évidemment sans doute une évolution dans la tentative de résolution du conflit qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Mais on voit bien, avec les derniers événements d'il y a une quinzaine de jours, et notamment le bombardement de Goma, que même si tous les chefs d'État étaient présents et ont signé cet accord cadre d'Addis Abeba, mais on voit quand même que certains signataires ne respectent pas leurs engagements. Donc je pense que c'était une énième tentative, notamment par la communauté internationale, de vouloir régler le conflit ici, mais on voit bien qu'il a été violé depuis quelques semaines et qu'il a fallu refaire une septième édition d'un sommet de Kampala avec les chefs d'État de la CIRGL qui a eu lieu la semaine passée à Kampala, ce qui veut bien dire que l'accord cadre actuellement ne fonctionne pas. S'il fonctionnait, les chefs d'État ne devraient pas passer du temps à se réunir en permanence à Kampala au niveau de la communauté internationale pour la région des Grands Lacs afin d'essayer de trouver une solution.
Voilà, alors que faudra-t-il pour faire avancer ce processus?
Écoutez, moi je pense, je le disais il y a quelques mois, je pense que le président Kabila avait trouvé la bonne parade en disant qu'il y avait trois options et trois chemins de sortie au conflit. Le chemin politique avec une négociation politique, le chemin diplomatique avec une négociation diplomatique et puis le chemin militaire. On voit aujourd'hui que si la déclaration de Mme Robinson à la fin du sommet de Kampala de la semaine passée va dans le sens de dire qu'il y a eu des évolutions, c'est simplement parce que au niveau militaire et sur le terrain, il y a eu une offensive avec un certain nombre de résultats des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyé par la MONUSCO et appuyé par les premiers éléments de la brigade d'intervention rapide, et c'est en fait dans les trois chemins que le président Kabila proposait en début d'année 2013, c'est le chemin militaire aujourd'hui qui semble être celui qui fait avancer les choses. Le chemin diplomatique est un petit peu dans l'impasse, puisque actuellement il n'y a pas de volonté réelle de la communauté internationale de vouloir régler la question et la pacification ici à l'est de la République démocratique du Congo. Le chemin politique est sans doute en cours avec les concertations nationales, mais on sait bien que la meilleure manière pour la République démocratique du Congo de pouvoir compter par rapport au conflit et de pouvoir véritablement peser dans ce conflit, c'est actuellement par des actions militaires qui permettent de pouvoir en tout cas repousser, mais ce qu'il faudrait sans doute, c'est neutraliser les fameuses forces négatives.
Alors quand Mary Robinson parle d'une fenêtre pour le progrès politique, qu'est-ce que sous-entend cette allégation?
Bah, écoutez, moi je pense que Madame Robinson, comme d'ailleurs étant irlandaise, je pense qu'elle elle est en train de prendre le même discours que Madame sa collègue Madame Ashton, qui est la représentante des relations extérieures de la Commission européenne et de l'Union européenne et du Conseil européen. Moi je pense que c'est quand même des discours et que leur volonté à L2, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, pardon, et que ce soit au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, ou en tout cas le Conseil de sécurité, je pense que eux veulent évidemment privilégier le dialogue politique, le dialogue diplomatique, mais je pense que le dialogue politique n'est pas la bonne voie, puisqu'on sait très bien maintenant, et on l'a encore vu avec les bombardements de Goma, d'il y a deux semaines, on sait très bien que le N23 ce n'est pas une force négative congolaise, donc ce n'est pas un problème intra-congolais qu'il faut régler avec le M23. C'est bien un problème diplomatique, c'est un problème régional entre les États voisins de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même le secrétaire général des Nations Unies a reconnu que les fameuses bombes qui sont tombées sur le territoire rwandais venaient bien entendu de la République démocratique du Congo, mais avait été tiré par le M23 et pas du tout par les forces régulières de la République démocratique du Congo.
Voilà, on va poursuivre avec les débats avec vous, Dominique Wout. Ben, laissez-nous, avant d'accorder la parole aux auditeurs, et tout en leur rappelant qu'il faudrait bien qu'ils entrent en contact avec nous en composant les 081-890-6315. Dominique Wout, dans les propos de l'envoyé spécial, on note les soucis de la communauté internationale de soutenir le processus. Alors, idéalement, en quoi peut-il consister ce soutien en ce moment?
Écoutez, moi je pense que il faudrait plutôt que la représentante du secrétaire général se soucie des populations congolaises qui sont actuellement victimes de la guerre. Maintenant, qu'elle se soucie de l'avancée du processus politique ou diplomatique, c'est évidemment de bon ton et ça fait partie de ses fonctions. Mais le soutien, à mon avis aujourd'hui, il doit vraiment être de confirmer l'engagement et la volonté de la communauté internationale, et notamment du Conseil de sécurité, de faire en sorte que les pays voisins de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, et on sait lesquels ce sont, on sait quels sont ces pays-là, on sait que c'est le Rwanda, on sait que c'est l'Ouganda, que ces pays-là arrêtent de soutenir des forces négatives qui agissent et qui sont en train de meurtrir la population congolaise. Donc, tant qu'il n'y aura pas un discours très clair, très ferme, de la communauté internationale par rapport à ces deux pays-là. Je pense que le discours de la communauté internationale ne sera pas très crédible, parce que tout le monde sait maintenant, tout le monde sait ce qui se passe. Et donc la solution, elle est du côté de Kigali, elle est du côté de Kampala, mais pas du côté de Kampala où on a tous les sommets internationaux, du côté de Kampala, ville ougandaise, où il y a le pouvoir ougandais qui siège. Donc ce sont ces deux pays-là aujourd'hui que la communauté internationale doit pouvoir mettre au pied du mur en disant arrêtez de soutenir ces forces négatives. Le jour où on aura vraiment fait ça, on va pouvoir commencer à parler aussi des autres forces négatives. Et il y en a d'autres, on est bien d'accord. Donc l'idée n'est pas du tout de mettre uniquement l'exclusivité de la situation problématique à l'est de la République démocratique du Congo sur le M23. Il y a les FDLR, il y a les Mai Mai, on les connaît, il y a les groupes bandés. Donc on sait que le M23 n'a pas le monopole de la force négative. Mais c'est quand même lui, aujourd'hui, qui fait en sorte que le pays, actuellement, est paralysé. Que la République démocratique du Congo est paralysée sur l'ensemble de son territoire à cause de cette situation qui perdure depuis des années.
081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Nous allons prendre le premier auditeur qui est en ligne, Confiance qui est à Kinshasa, et Willy est à Kolwezi. Confiance, vous êtes avec nous, bonjour. Confiance, vous êtes avec nous à Kinshasa? Voilà, on reprend plutôt Willy qui est à Kolwezi. Willy, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Alors, vous avez suivi notre invité qui a parlé tout à l'heure, qui a fait des analyses par rapport aux propos de l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac, qui, en fait, a déclaré à la presse le mercredi 4 septembre dernier qu'après les succès militaires des FRDC et des forces de la MONUSCO sur la M23, il y a une fenêtre pour le progrès politique. Alors, selon vous, que faudra-t-il pour faire avancer le processus de pacification de la région?
Effectivement, l'invité a totalement raison dans tout ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que les FARDC ont dominé sur les terrains vis-à-vis de 1-23. La meilleure façon de faire, c'est quoi? Nous devons toujours rester sur cette position-là de la guerre. Si la RDC parvenait à convaincre le 1-23 sur le terrain à guerre, je pense que avec les négociations, ça pourrait maintenant aller si nous sommes d'abord forts sur le plan militaire. Mais on sait longtemps que nous partons dans des négociations avec une faiblesse sur le terrain, vraiment, je ne parle pas que nous allons discuter à quelque chose. Et de deux, l'invité a bien dit que non, la communauté internationale aujourd'hui ne s'intéresse pas avec la question de la guerre, tout ça, tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Je pense que si la guerre fait vraiment l'ampleur aujourd'hui au Congo, la communauté internationale pourra aussi agir par rapport à tout ce qui va se passer. C'est un peu de cette façon qu'il faut voir. Il faut toujours continuer avec de nouvelles versions. Je pense que ça ne va rien arriver. La meilleure chose, c'est de continuer toujours avec la guerre. À ce moment-là, quand ça va prendre de l'ampleur.
Oui, Willy. Donc, elle craigne que si nous demeurons dans cette option militaire, c'est vrai que le soutien au M23, le soutien aux groupes armés actifs à l'est de la République démocratique du Congo va plutôt s'accentuer. Donc, le Rwanda, le Uganda qui sont accusés aujourd'hui de soutenir les forces négatives opérant dans l'est de la République pourraient encore décupler ou multiplier ou décupler encore leur soutien, et ça ferait des morts et des victimes du côté de la population.
Effectivement, nous sommes un État souverain. Qu'est-ce qui peut aussi empêcher de faire des coalitions avec des nations qui ont une grande puissance, par exemple la Russie, la Chine, pour nous armer aussi? Nous ne pouvons pas avoir la paix de Rwanda ou de Uganda. Nous sommes aussi capables de faire des coalitions, d'échanger des soutiens partis par là pour faire la guerre au M23 et au Rwandais. Nous ne pouvons pas avoir peur de ces deux états-là. Non, c'est un paramètre, moi, je trouve, qui n'est pas vraiment, il ne peut pas nous empêcher à faire la guerre au M23 et aux rebelles, au Rwanda plutôt.
Merci beaucoup, Willy. Vous vous demandez à ce qu'on puisse continuer à opérer, donc à utiliser l'option militaire pour montrer de quoi nous sommes capables. Et ce n'est que de cette façon-là que la communauté internationale pourrait suivre pour chercher la solution durable dans cette partie du pays. Merci, Willy, d'avoir appelé. Et nous avons également Franck qui voulait nous rejoindre. Nous rappelons à nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent composer le 081-890-63-15 pour leur intervention en direct. Ils peuvent aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et aussi ils ont la possibilité de déposer leurs commentaires sur notre page Facebook. Dominique Vart, vous venez de suivre là l'intervention tout à l'heure de Willy qui nous a appelé de Colésie. Comment vous réagissez, Dominique?
Écoutez, moi je suis un petit peu d'accord avec vous, et quand vous lui posiez la question de savoir si éventuellement le fait que l'option militaire s'intensifie, cela va peut-être mettre le feu aux poudres dans la région, c'est évidemment une option possible. C'est pour ça qu'il faut avoir, pour moi, une double dynamique, une dynamique diplomatique avec les pays notamment voisins de la région et dont ils ont des amis qui sont très haut placés au Conseil de sécurité des Nations Unies, et une dynamique militaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, on a assez discuté. Enfin, vous avez vu le dialogue de Kampala, cela fait maintenant six mois, ça dialogue un peu avec un dialogue de sourds, hein, d'ailleurs, puisque le banc gouvernemental congolais dit que finalement il est hors de question de les intégrer, il est hors de question de les remettre dans l'armée, il est hors de question de faire de l'amnistie, il est hors de question. Et puis le M23 disant, lui, de l'autre côté de la table de négociation, qu'au contraire, ils veulent retrouver les fonctions militaires qu'ils avaient avant, du temps du CNDP, du temps où ils étaient dans la FRDC, et que maintenant ils doivent avoir des officiers qui sont dans l'armée congolaise. Donc on a un dialogue de sourds à Kampala. Je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant terminer ce dialogue de sourds, même si je suis entièrement d'accord qu'il faut continuer tout le temps à discuter, et à parlementer, et à négocier, c'est évident. Mais en même temps, je pense qu'on a vu un tournant il y a une quinzaine de jours où, avec les quelques succès militaires que les FARDC ont remportés, avec le soutien
de la MONUSCO et avec le soutien de la brigade d'intervention rapide et notamment des troupes tanzaniennes, on voit qu'aujourd'hui le rapport de force change un peu et que la négociation peut se retourner plutôt en faveur de la République démocratique du Congo. Maintenant, voilà, il faut je pense faire les deux, mais aujourd'hui il faut vraiment neutraliser ces forces négatives qui, ne l'oublions pas, parce que dans tous ces sommets, dans toutes ces rencontres internationales, dans toutes ces déclarations, j'ai vu toutes les déclarations internationales de tous les ambassadeurs qui étaient présents en Kampala la semaine passée. Et alors tout le monde y va de son avis sur il faut sécuriser la région, il faut renforcer la démocratie dans la région, etc. Mais il y a quand même un élément essentiel, me semble-t-il, et dont on parle très très peu, ce sont les populations civiles, celles qui n'ont rien demandé, celles qui sont les premières victimes. De toutes ces exactions, de tout ce pillage des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont ces personnes-là à qui, je pense, aujourd'hui, il faut penser en priorité.
Voilà, on va retrouver à nouveau confiance. Je crois que cette fois-ci, ça va aller avec la ligne téléphonique. Confiance, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
Voilà, confiance, vous êtes à Kinshasa, vous avez suivi tout à l'heure Willy qui nous a appelé de Kolwezi, qui insiste beaucoup plus sur l'option militaire, et ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons déployer le rapport des forces, et ça pourrait nous rendre un peu plus crédibles, et la communauté internationale pourrait suivre pour chercher en tout cas une solution durable à la question de l'Est. Est-ce que vous partagez cet avis? Et la question du jour que nous avons posée, que faudra-t-il faire, que faudra-t-il pour faire avancer le processus de pacification de la région?
Je pense que toutes les fois que nous avons intervenu à cette radio pour donner nos propositions, nous nous sommes toujours rendus compte que ces propositions n'étaient pas écoutées. Moi, je pense que le gouvernement et l'État congolais est arrivé à prouver et à isoler politiquement le Rwanda et le M23, à montrer diplomatiquement que ce qu'ils recherchent n'était pas réellement ce dont ils avaient besoin. Donc, petit à petit, on a opté pour le trois positions. Le fonds diplomatique, le fonds militaire, ainsi de suite, la négociation. Mais nous nous sommes rendus compte que, dans la plupart des cas, tous les autres aspects n'ont pas échoué, mais actuellement, on a su prouver devant le monde que ceux qui font réellement la guerre au Congo ne le font pas pour la paix, mais le font pour nourrir certaines personnes, soit des acteurs politiques, soit aussi des acteurs internationaux. Parce qu'on n'arrive jamais à comprendre comment on peut avoir une toute petite armée de moins de 10 000 personnes peut narguer toute une armée internationale comme la MONUSCO et consorts. Moi, j'ai toujours dit, on ne va pas aux négociations, s'il vous plaît, on ne va pas aux négociations en position à genoux. Je pense qu'actuellement, ayant déjà exploré tous les autres aspects de négociation, maintenant, et que nous avons une certaine supériorité militaire, j'aurais souhaité qu'on renforce cette position-là et qu'on y aille sur tous les fronts. Et les accords de Kampala, l'histoire de Kampala, les négociations, moi je pense que c'est une perte de temps qui fait coûter à l'État congolais beaucoup d'argent pour rien. Actuellement, c'est ça.
Oui, mais avant, autrefois, au fait, la force de nos forces armées n'était pas très 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 appréciée par plus d'un. Aujourd'hui, c'est vrai, même l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs a déclaré à la presse le mercredi qu'après les succès, donc tout le monde reconnaît aujourd'hui quand même le succès militaire des FRDC et des forces de la MONUSCO sur la M23. Alors, Madame Mary Robinson a évoqué une fenêtre qui s'ouvre pour le progrès politique. Je crois que nous devons tous y aller dans les sens, c'est pourquoi nous posons cette question.
Non, cette fenêtre-là n'est qu'une façon polie de faire sortir honorablement Kagame. C'est une façon polie de faire sortir honorablement Kagame. Tout le monde sait que c'est lui qui combat le Congolais, c'est Kagame et son armée, c'est l'Ouganda et les autres. Et aujourd'hui que nous avons une certaine supériorité, nous nous rendons compte qu'ils se rendent compte que nous sommes en train d'avancer, nous avons réussi à prouver diplomatiquement que c'est vraiment une erreur de leur part. Donc, c'est pas nécessaire qu'on aille encore à Kampala et qu'on sorte, qu'on renforce cette position militaire, et s'il faut frapper, on frappe. Et comme on l'a toujours dit, Désiré Kabila, la guerre est longue et populaire, et elle retournera d'où elle est venue. Moi, je pense que le fond militaire doit être accentué.
Merci beaucoup. Confiance, là, vous évoquez une fenêtre. Vous dites que cette fenêtre qui s'ouvre ne s'ouvre que pour Kagame. Nous allons voir si Ruth partage cet avis. Ruth, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Ruth. Ruth, vous êtes avec nous.
Bonjour,
Voilà, vous venez de suivre tout à l'heure Confiance qui parlait de cette fenêtre qu'a évoqué Mary Robinson. Bon, pour Confiance, cette fenêtre ne s'ouvre que pour Kagame. Hein. C'est une façon pour la communauté internationale d'aider Kagame à sortir par une grande porte. Hein.
Oui, monsieur, je partage le même avis avec les précédents. Vous voyez combien de fois qu'on avait commencé à signer l'accord même, depuis qu'on avait commencé à signer l'accord des Amani Leo, Kimia, tout ça, ça n'apporte rien, monsieur, vous voyez. Pour moi, c'est beau de continuer avec cette opération. Nous sommes derrière les forces armées pour qu'ils continuent leur opération. Ne voulons pas encore des négociations, de retourner encore à Kampala, soit disant quoi. Ne voulons pas ça. Nous voulons continuer avec notre opération. C'est maintenant au gouvernement de voir de renforcer nos forces armées avec des équipements qui sont capables de défendre notre territoire. Et nous sommes derrière et nous les soutenons. Nous ne voulons pas avoir les problèmes de négociation, aller en Kampala, faire ceci, cela. Nous ne voulons pas ça. Nous les soutenons pour continuer leur opération jusqu'au bout. Et la victoire sera à notre côté.
Voilà, Ruth, si je comprends bien pour vous, vous rejoignez complètement vos prédécesseurs, notamment Confiance qui a appelé de Kinshasa et Willy qui était à Kolwezi. Vous insistez pour qu'on puisse capitaliser les succès militaires au lieu de tenir compte de cette fenêtre pour le progrès politique quant à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Ruth d'avoir appelé de Kisangani dans la province orientale. Évariste, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Évariste.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Évariste.
Tout à fait. En suivant tous mes prédécesseurs, donc tous les auditeurs qui sont intervenus jusque-là dans cette émission, je pense que c'est clair, monsieur le journaliste. Madame Robinson a donné que son point de vue est un point de vue qui ne concerne que la communauté internationale et non pas l'ensemble du peuple congolais. Pouvez-vous vous imaginer qu'au moment où nos forces armées sont au front, en train de faire une avancée significative, on vient nous parler d'une histoire, disons, de négociations politiques ou qu'on sort. Ça sert à quoi tout ça? Ça ne sert à rien. Moi, je pense que ma proposition est celle-ci. Qu'à la prochaine session budgétaire, qu'on puisse beaucoup plus affecter un grand fonds à l'armée nationale. Comme ça, qu'on déplace même nos bases militaires, qu'on les place à notre frontière, puisque la souveraineté d'un État vaut plus que tout, je vous dis la vérité. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement de la part de nos voisins. Alors voilà ma proposition à ce sujet. Et j'aimerais dire que sachez que cette proposition de Mme Robinson, elle engage qu'elle-même, ça n'engage pas tout le peuple congolais pour nous faire comprendre que non, voilà, nous devons passer par cette voie diplomatique ou bien la voie politique. Ça ne concerne pas le peuple congolais. Le peuple congolais meurt, Mme Robinson rentre chez elle, dans son pays, elle est calme, elle mange, elle va, disons...
Oui, Évariste, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose, que dans ce processus de pacification de la région, nous n'allons pas seuls, la RDC ne fait pas cavalier seul, il y a la communauté internationale qui accompagne la RDC dans cette démarche. Je crois que il va de soi, c'est à notre intérêt de vouloir accepter que les gens nous accompagnent et nous leur donnons aussi l'occasion de nous accompagner correctement. Je crois que c'est de cette façon là que nous pouvons aussi écouter leur son des cloches, leur façon de faire des analyses par rapport à la question de l'heure.
Tout à fait. Mais quel est ce Congolais-là, ou bien cette personne-là normale, qui peut accepter qu'une personne vienne chez toi à la maison, t'attaquer, tu es tes enfants, ta femme, et tu es là, et on te demande à toi, la victime, de pouvoir négocier avec la personne qui vient entrer chez toi, tu es tes enfants et ta femme, mon frère. Est-ce que vous trouvez ça normal, entre nous soit dit? Est-ce que c'est logique, ce genre de raisonnement? Est-ce logique d'abord?
Voilà, nous allons poser la même question à notre analyste politique qui était. Bon, moi je ne peux pas répondre à cette question. On trouvera si c'est normal ou pas. Notre invité est là, il pourrait répondre à cette préoccupation. Évariste, merci d'avoir appelé de Lubumbashi. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gère. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les compatriotes avec qui on s'échange.
Voilà, vous avez suivi Confiance, Willy et Ruth, et les tout derniers Évaristes qui venaient de parler. Alors tous, au fait, souhaitent qu'on puisse capitaliser les succès militaires, mais avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Mais voilà, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire pour avancer le processus de pacification de la région, Franck?
Oui, merci beaucoup. Nous le savons tous que les pays membres de la communauté internationale peuvent avoir des pistes de solutions à suggérer ou ils peuvent avoir un mot à dire par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Par ailleurs, ce qui donne à penser, c'est le fait que cette piste du dialogue avec les rebelles n'est souvent recommandée qu'au gouvernement congolais. Mais beaucoup de Congolais avertis aimerait aussi attendre de voir que les mêmes recommandations puissent être formulées à l'égard des autres. C'est pourquoi on ne demanderait pas ouvertement aux Rwandais et aux Ougandais d'aller négocier avec les rebelles. Mais pourquoi seulement encore maintenant? Je crois que il faut d'abord exploiter la piste qui donne des résultats escomptés. Maintenant que les FAMBC commencent à gagner du terrain, il faut d'abord qu'ils récupèrent toutes ces positions-là. Parce que quand on nous demande d'aller négocier en position de faiblesse, c'est trahir quatre fois le pays. Moi, j'espère qu'il faut commencer par privilégier la piste qui donne déjà des fruits, sans pour autant négliger les autres. Mais aller négocier avec qui et où? Ce sont des questions qui restent un peu en suspens. Alors, je souhaite que l'invité pousse un peu
nos intérêts là-dessus. Franck, par rapport à ce que venait de dire Willy, Confiance tout à l'heure, que si nous nous tenons à ce propos de Mary Robinson, lorsqu'elle dit qu'il y a, disons, après les succès militaires des FARDC et des forces de la MONUSCO sous la M23, il y a une fenêtre pour le progrès politique, c'est qu'en ouvrant cette fenêtre, on est en train d'aider Kagame.
Absolument. Absolument, parce que nous savons tous que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent, qui parrainent toutes ces rébellions. Il y a des concertations qui se tiennent à Kinshasa. Mais pour les mêmes rébellions, on va dialoguer combien de fois? Parce que les concertations qui se tiennent à Kinshasa ont justement pour finalité aussi chercher à remettre la paix sur toute l'étendue du Congo. Tantôt c'est Kinshasa, tantôt c'est Kampala. Et ça donne toujours à penser que on aille encore discuter avec l'agresseur, qu'on aille encore chercher à palabrer chez l'agresseur. Donc, ces assises-là de Kampala ne donneront rien, nous le savons. Ça ne donnera rien. Qu'on cesse un peu de distraire l'opinion publique parce que nous savons préalable que Kampala soutienne les rebelles, Kigali soutient les rebelles. J'aimerais qu'on puisse peut-être nous proposer d'autres pistes diplomatiques avec les États qui se montrent un peu sincères, mais pas les Rwandais et l'Ouganda.
Merci beaucoup, Franck.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres
disent.
Tout à fait d'accord.
081-890-6315 pour participer en direct à ces débats, et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons en ligne Dominique Wert, qui est analyste politique et qui est avec nous pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Dominique Wert, vous êtes en direct de nos studios de Bukavu. Vous avez suivi les uns les autres, vous avez suivi les préoccupations de Willy, d'Evariste, de Confiance, ainsi que de Franck, qui a appelé tout à l'heure, de Vienne. Et comment vous répondez à leurs préoccupations?
Mais écoutez, moi j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que il faut, et vous l'avez rappelé vous-même hier à l'un de vos auditeurs, il faut quand même remettre un peu dans le contexte la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, quand j'entendais vos auditeurs qui disent oui mais non, c'est une affaire congolaise et que Madame Robinson n'a pas le mandat de parler au nom du peuple congolais et qu'elle ne parle qu'au nom de la communauté internationale, tout ça est évidemment juste, mais de toute façon, Madame Robinson n'a pas le mandat pour parler au nom du peuple congolais. Les seuls qui ont le mandat de parler au nom du peuple congolais, ce sont les élus de la République, et qu'ils soient au gouvernement, ou qu'ils soient au Parlement, ou qu'ils soient à la présidence de la République. Donc ça, de toute façon, moi je pense que le discours de Madame Robinson est tout à fait cohérent. Elle est ici l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Elle parle évidemment au nom de la communauté internationale. Alors, on sait bien que c'est une nébuleuse qui est très difficile à déterminer, bien entendu, puisque on y retrouve autant d'antagonisme qu'il y a de membres de cette communauté internationale. Les Chinois n'ont pas la même vision que les Russes, que les États-Unis, que la France, que l'Angleterre, que la Belgique, que le Canada. Et donc, c'est évidemment un exercice compliqué pour Mme Robinson d'essayer de parler au nom de toute cette communauté internationale qui est tout, évidemment, sauf congolaise. Alors, elle est aussi, bien entendu, et c'est ça, évidemment, un peu l'ironie du sort en ce moment, elle est aussi, évidemment, le porte-parole du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire y compris du Rwanda, puisque vous savez que le Rwanda, aujourd'hui, siège pendant 2 ans au Conseil de sécurité. Alors, quand elle parle d'une porte, d'une fenêtre d'opportunité,
qui s'ouvre, oui, pour le progrès,
le fait qu'il y ait eu quelques avancées militaires, je ne crois pas, moi, franchement, que c'est à destination de M. Kagame et que c'est une manière pour lui de sortir par la grande porte du marasme dans lequel il est aujourd'hui avec le Congo. Je pense que quand elle a dit ça, c'était vraiment au contraire, moi je dirais même, c'était vraiment pour mettre tous les acteurs qui sont aujourd'hui engagés dans la déstabilisation de la République, de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est au contraire pour les mettre devant leurs responsabilités et même un petit peu les acculer en disant maintenant, vous savez qu'il y a moyen que les forces armées de la RDC, appuyées par les forces de la MONUSCO, appuyées par la brigade d'intervention rapide, composée de Tanzaniens, de Sud-Africains, de personnes, de soldats et de militaires qui ont maintenant un vrai mandat de pouvoir neutraliser les forces négatives, eh bien moi je pense que c'est plutôt un rappel à l'ordre et une manière de dire, ok, la négociation politique peut continuer, mais il est évident qu'elle est sous la menace. Il y a une espèce d'épée de Damoclès comme ça qui trône au-dessus des responsables ougandais et rwandais. Faites attention. Parce que si les négociations de nouveau s'enlisent, ou si on voit que vous n'avez pas véritablement la volonté de vouloir résoudre définitivement cette déstabilisation dans cette région-là, eh bien vous savez qu'il y a des forces militaires qui viennent de remporter quelques succès, mais qui sont prêtes à aller vraiment plus loin et à neutraliser définitivement vos alliés qui sont en train de...
De semer la sécurité,
neutraliser la population congolaise dans cette région-là. Et les exactions continuent, et on voit que le M23 fait encore des arrestations arbitraires, le M23 dans les quelques zones qu'il contrôle met des couvre-feux, c'est vraiment une action très très négative, c'est le cas de le dire, ce sont vraiment de véritables forces négatives qu'il faut neutraliser. Et donc, moi je pense que Mme Robinson a un peu raison dans ce sens-là. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir dans les semaines qui viennent comment tout cela va se passer. Alors, dire qu'il faut arrêter les négociations et les sommets, qu'ils soient à Kampala ou ailleurs, en disant ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent et de toute façon la seule solution est la solution militaire, mais il faut savoir que de toute façon, même si on fait appel à la solution militaire et qu'il y a des avancées significatives sur le terrain, il n'empêche qu'à un moment, il faudra négocier. Il ne faut pas oublier quand même que et le Rwanda et l'Ouganda sont des pays voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, si on arrive à neutraliser toutes ces forces négatives, il y a un moment, il va falloir négocier. Vous ne pouvez pas dire, je suis en guerre en permanence avec mes deux voisins parce qu'ils ont armé des forces négatives qui sont en train de commettre des exactions sur ma population et donc je continue à faire la guerre éternellement. Il y a un moment où il va falloir évidemment négocier. Et négocier notamment quoi? Mais tout le monde le sait bien que cette guerre, elle n'est pas religieuse, cette guerre, elle n'est pas politique, cette guerre, elle n'est pas ethnique, cette guerre, elle est économique.
Voilà,
ce sont les ressources qui se retrouvent à l'intérieur de l'Est de la République démocratique du Congo qui font que la région est déstabilisée depuis 1994.
Voilà, alors si vous permettez, Dominique, on va accorder la parole à Dieudonné qui est à Kananga et Jean-Pierre à Kinshasa. Alors Dieudonné, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour aussi à l'invité et aussi aux auditeurs de la Radio Capi.
Mais quel est votre point de vue?
Voilà, j'ai juste deux points de vue. À part ce que les auditeurs ont un peu émis, comme à Villard, mais tout le monde, c'est un secret de Pouchinet, tout le monde sait que c'est les Rwanda, les Ouganda qui sont les agresseurs de la RDC du Congo. En droit, il y a plusieurs modes de régulation des conflits. On peut régler le conflit par les droits, on peut régler le conflit par la force ou la guerre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la voie diplomatique, j'ai fait l'allusion au droit, la voie diplomatique a échoué, on a eu un fiasco, c'est un secret de Bolchinel. Aujourd'hui, je sais pourquoi. La dame a appris que le FADC se comporte bien à la ligne de front, et il fallait au moins amener des fameuses déclarations qui doivent au moins décourager le FADC. Non, mais c'est une distraction.
Vous ne pouvez pas
Dieudonné,
Dieudonné, s'il vous plaît.
Dieudonné, on doit
Si, s'il vous plaît, Dieudonné.
Donc, chasser l'ennemi jusqu'au fond.
Est-ce qu'on peut s'écouter, Dieudonné?
Voilà. Et je dis, c'est ça qui m'a donné ma première proposition.
Oui, alors, on peut quand même évoluer,
Dieudonné. La deuxième est la celle-ci, s'il vous plaît, un peu.
Allez-y, allez-y.
Voilà. On doit arrêter, donc, les Congos d'abord, au niveau interne, on doit arrêter l'hémorragie en amont et en aval, au lieu de diviser le peuple. Cette guerre qui est politique à l'Est est connue que ce sont les Congolais qui sont d'abord auteurs de cette guerre ici. D'abord, en amont, les dirigeants au Congo, vraiment, on se rend compte que les ventres ont remplacé les cerveaux. Ça ne va pas, il y a eu un fiasco. Aujourd'hui, on peut arrêter les M23, mais demain, on aura encore un autre groupe qui va remplacer M23.
Voilà,
en aval,
voilà.
Est-ce que les peuples congolais, on n'a pas, donc, vraiment, les bien-être. Jusque-là, quand le peuple n'est pas à l'aise, mes chers journalistes, on n'y aura pas, ça sera sur des fiascos. On ira des accords en accord, des déclarations. Parce qu'on a collé toute une panoplie avec des accords à l'Est, là, pour qu'il y ait un calme. Vraiment, jusqu'alors, il n'y a pas de suite favorable. Au lieu de ça, vraiment, nous devons d'abord tenter avec cette voie militaire ici. Ça peut vraiment nous donner un résultat escompté. Sinon, ça ne va pas.
Voilà, une question très simple, Dieudonné. Vous pensez que la solution militaire va résoudre le problème des ventres?
Effectivement. D'abord, on doit être d'abord calme, et puis on doit songer à autre chose.
On doit d'abord être calme, et puis on va penser à autre chose. Ben, finalement, vous ne craignez pas que, même si on est calme, d'autres personnes qui ont encore des problèmes de ventre pourraient être utilisées autrement, et ce sera peut-être des M24 ou des M25 plus tard.
Effectivement.
Ben voilà, merci Dieudonné d'avoir appelé. Jean-Pierre, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre Kayembele de Kinshasa.
Vous avez la parole, Jean-Pierre.
Ok, je n'arrête pas à être catégorique comme mon prédécesseur. J'aimerais penser, regarder dans toutes les guerres ici. Comme d'autres prédécesseurs qui ont pensé à des options, dont la première, l'option militaire. Dans le sens que vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas seulement le M23 qui est en train d'attaquer la tranquillité des Congolais. Il y a d'autres groupes qui sont peut-être en train de devenir petit à petit, comme mon président venait de le dire, peut-être demain il y aura le MP5. Alors c'est pour cette raison-là que d'abord les forces armées doivent être renforcées par l'État congolais. La deuxième option, c'est l'option politique, parce que d'aucuns ignorent que la politique gère tout. Il peut arriver que nous puissions être dans la paix, comme vous venez de le dire tantôt, et que la politique puisse nous ramener encore la guerre. Alors c'est pourquoi nous devons tenter de pouvoir résoudre toutes ces questions dans toutes les directions. Mais je voudrais poser un peu la question à l'invité. Entre Kampala et les concentrations qui se passent à Kinshasa, quel est le cadre faudra-t-il privilégier pour essayer un peu de résoudre cette question sur le plan diplomatique ou politique?
Politique. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette question. Donc on aura des précisions tout à l'heure avec notre invité. Il est temps d'accorder également la parole à Arsène qui est dans le Bandundu et plus précisément à Kikwite. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Silence, ça fait sur les ondes de la radio.
Arsène, vous êtes déjà en direct s'il vous plaît.
Oui.
Vous avez la parole.
Ok, merci. Cette histoire de Kampala, en tout cas cher ami, nous sommes fatigués. Le M23 ne peut pas narguer tout un peuple. Histoire de négocier, qu'est-ce que nous allons négocier avec le M23? Aujourd'hui, le peuple congolais se trouve en négociation entre peuples congolais. S'ils étaient des Congolais, des frères congolais, ils devaient passer directement là où nous négocions entre nous. Nous sommes en train de régler nos problèmes internes. Et aujourd'hui, on va nous interpeller à aller à Lusaka ou à Kampala négocier avec le M23. Qu'est-ce que signifie le M23? Pourquoi un petit groupe peut narguer tout un peuple? Les forces armées sont là, qu'ils aillent en avant, qu'ils combattent pour faire voir à la communauté internationale que nous ne pouvons pas marcher sur le bord de la communauté internationale. La communauté internationale nous a aidés, d'accord, mais nous devons aussi protéger notre intégrité territoriale. Notre souveraineté, nous devons protéger ça. Nous ne pouvons pas marcher sur les potes de M23. Moi, je ne considère pas ce parti, je ne considère pas ce mouvement-là, et qu'il rentre là où ils sont venus, si c'est un mouvement des Kagame, et je vous assure un message que j'envoie tout droit à M. Kikwata, Apollo Saïla, les Congolais qui comprennent ce que j'ai dit, qu'ils envoient ce message à M. Kikwata. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup Arsène. On va tout droit à Kalemie, dans le Katanga, pour récupérer. Donc on va accorder la parole à Coq Alexandre qui nous a rejoint. Coq Alexandre, bonjour. Bonjour Coq.
Oui, bonjour.
Voilà, vous avez votre radio. Oui, est-ce que vous pouvez éteindre un peu votre poste récepteur?
Oui, je l'ai déjà fait.
Voilà, allez-y maintenant.
Voilà. Bon, moi, je pense que la fenêtre de Kampala est si sombre, puisque si une fois on a compris que le FRDC a fait des avancées dans leur engagement en combattant les M23, cela suppose que la déclination de l'envoi spécial de l'ONU veut maintenant embaumer Kagame Ville, soit en les faisant disparaître dans les mascarades qui veut montrer que il est innocent dans l'affaire qui cloue la République démocratique du Congo. Mais personnellement, moi, je pense que l'histoire de Kampala, c'est une mascarade et ça cherche à éblouir le peuple congolais. Donc, vraiment, moi, je pense que l'histoire et les négociations de Kampala seraient une histoire qui se déroulerait dans notre pays pourvu que les cadres administratifs politiques puissent s'asseoir ensemble. Et non, les rêves qu'a fait notre président Joseph Kabila, et au lendemain, il informe le public qu'il y aura concertation nationale. Nous, d'ailleurs, je remercie notre président Vital Kamerhe qui a boycotté ça et notre cher leader Tshisekedi.
Voilà, merci beaucoup, Coq Alexandre, d'avoir appelé 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Dominique Huert, avant de ramasser les préoccupations des uns et des autres. Permettez-nous d'abord de poser cette question, parce que l'envoyé spécial Mary Robinson s'est fait accompagner pendant son séjour avec d'autres envoyés spéciaux et représentants spéciaux dans la région des Grands Lacs. Alors, une déclaration commune a sanctionné leur visite et ils encouragent les signataires de l'accord cadre de faire avancer le processus à travers une coopération régionale soutenue. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces allégations, par exemple?
Ben, moi, je pense que c'est évidemment un tout petit peu de la langue de bois, parce que il est évident qu'une des pistes de solution de ce conflit qui perdure maintenant depuis de très nombreuses années, ben, il passera évidemment par au travers de relations diplomatiques, sans doute, mais il passera évidemment par une coopération économique dans la région. Régional aujourd'hui on ne peut plus et ça je pense que ce sera une des avancées sans doute pour trouver la paix. On ne peut plus dire non plus, je pense, que le Congo, la RDC avec ses frontières issues de la colonisation, que la RDC a le monopole de toute la richesse qui sont dans son sous-sol. Et je pense qu'il y a moyen, par des mécanismes économiques régionaux ou communautaires, de pouvoir faire en sorte que cette richesse-là puisse profiter ou en tout cas bénéficier à l'ensemble de la sous-région. Moi, je pense que ce sera vraiment le seul moyen de pouvoir sortir, parce que sinon, on va avoir de toute façon les antagonismes qui existent aujourd'hui et qui font que chacun a un appétit qui est plus grand que son ventre pour, bien entendu, bénéficier des revenus très très importants que procure le sous-sol congolais. Donc maintenant voilà, mais je pense que c'est quand même un peu une langue de bois, parce que je ne suis pas sûr du tout qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y ait une volonté de vouloir redonner la légitimité et l'autonomie des ressources naturelles de la RDC à la RDC toute seule. Et je pense qu'il y a des intérêts économiques internationaux et multinationaux, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, en Chine, en Europe, en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Tous ces intérêts économiques, eux, ils ne verraient pas d'un bon œil le fait que le Congo reprenne son autonomie et sa légitimité sur ses ressources naturelles. Donc, je pense que c'est quand même, évidemment, il fallait bien conclure cette déclaration par une phrase qui parle de la situation économique, puisqu'on sait que c'est la base de la guerre actuelle, je ne perçois pas que ce soit avec une grande motivation que Madame Robinson ou le Conseil de sécurité verraient la RDC reprendre le contrôle sur ses ressources naturelles. Maintenant, par rapport aux autres questions de vos auditeurs, il y en avait une qui était vraiment intéressante, je pense, c'était faut-il aller à Kampala ou faut-il aller à Kinshasa
et pour les concertations,
que faut-il privilégier ? Est-ce que ce sont les concertations nationales ou bien les négociations à Kampala avec le M23 ou avec les États de la région ? Moi, je pense évidemment que, vu le sommet maintenant de Kampala où on a eu les chefs d'État de la communauté internationale pour la région des Grands Lacs, qui s'est terminée vendredi avec une déclaration. Moi, je pense que les négociations intra-congolaises sous l'égide de la présidence ougandaise, ou de la médiation, pardon, ougandaise, entre le M23 et le gouvernement congolais, pour moi, n'ont plus lieu d'être. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut encore négocier entre soi-disant congolais, puisque on part du principe que le M23 est un mouvement rebelle congolais contre le gouvernement de Kinshasa, alors qu'on sait bien qu'il est avant tout un mouvement appuyé et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda pour des intérêts de nouveau économiques et pas du tout politiques. Donc moi je pense qu'il faut arrêter Kampala, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a encore moyen de négocier. Par contre, maintenant, bien entendu, la communauté internationale pour la région des Grands Lacs, avec peut-être un 8e sommet, mais en tout cas, il faut maintenir la pression sur les chefs d'État de la CNRGL, parce qu'ils sont partie prenante du conflit, donc il faut maintenir le dialogue et maintenir la pression. Et alors, évidemment, pour le moment, je pense qu'il faut privilégier, bien entendu, les concertations nationales à Kinshasa. Maintenant, on va voir sur quoi elles vont déboucher, mais les questions qui vont y être débattues sont des questions qui me semblent assez intéressantes pour retrouver une cohésion nationale, même si on sait qu'il y en a qui ont boycotté leur présence à ces concertations nationales.
Oui, disons tous les envoyés spéciaux et représentants spéciaux dans la région des Grands Lacs, présents au 7e sommet, ont tous eu l'espoir dans la prochaine réunion du mécanisme régional de suivi qui doit se réunir le 23 septembre à New York. Et est-ce que vous partagez aussi ces sentiments, l'espoir de voir des choses évoluer dans les jours à venir?
Désolé, mais je ne suis pas diplomate, donc évidemment je peux me permettre peut-être un langage un peu plus franc, mais je ne crois pas du tout à ce mécanisme-là. Je pense qu'il est mort, il est mort-né, et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a évidemment la brigade d'intervention rapide qui fait que si on veut véritablement vérifier ce qui se passe sur le terrain, on le sait. Je veux dire, on n'a pas besoin de ce mécanisme, c'est encore de nouveau une nouvelle dynamique diplomatique qui risque de s'enliser dans son fonctionnement. Et donc moi je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il faut qu'on ait ces fameux drones. Il faut qu'on ait ces drones qui vont permettre de pouvoir
contrôler
quels sont les mouvements de troupes entre les frontières de l'Ouganda, de la RDC, les frontières du Rwanda, de la RDC, les frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir maintenant un mécanisme d'observation qui soit véritablement militaire et où on arrête, on le sait, je veux dire, même le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a dit. On a tous les numéros des obus qui sont tombés sur le sol rwandais, qui sont tombés sur le sol congolais. On connaît tout ça, les bases de données existent. Et donc, arrêtons de croire qu'il faut encore un mécanisme de vérification où on va retrouver les diplomates autour de la table et qui vont commencer à ergoter pour savoir si tel char a fait 100 mètres ou pas, si telle troupe, ils étaient combien, 2000, 2500, a avancé ou pas,
Dominique, s'il vous plaît.
Moi, je pense que ce n'est vraiment pas un mécanisme qui va
en être de résultats
pour la résolution des conflits.
Merci Dominique. On va terminer cette dernière série des auditeurs avec Jules qui est à Bukavu et Crispin à Kananga. Ce sont les tout derniers auditeurs et puis on revient à vous pour la conclusion. Jules, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi qui sont en train de vous écouter.
Votre point de vue, Jules.
Ok, merci. Merci tout d'abord d'avoir accepté ma participation par téléphone à cette émission depuis Bukavu. En fait, pour avancer le processus de pacification dans notre pays, il faut trois choses que je veux proposer, M. J.R., aux auditeurs.
Mm-hmm.
Un, il faut que les hommes politiques de notre pays soient unis au profit de l'intégrité territoriale de la RDC, car c'est à cause de cette division du jour au lendemain de leur part qu'il y a une guerre interminable en RDC. De deux, il faut tout droit négocier avec l'agresseur réel. L'agresseur réel, c'est qui? C'est Kigali et Kampala, au lieu de perdre le temps à négocier avec les marionnettes qui sont reconnues par le monde comme une force négative. Trois, il faut une formation militaire de nos hommes qui sont censés d'affronter l'ennemi, mais aussi un encadrement digne de ces noms, c'est aussi nécessaire. Il faut qu'il y ait des soins médicaux, les salaires réguliers bien que maigres, et les logements, etc., etc. Et enfin, il faut bien contrôler les frontières, monsieur Vier. À présent, les frontières de notre pays sont en train de suinter. On ne sait pas qui entre à quelle heure, qui sort à quelle heure de la RDC. Vraiment, c'est un désordre total. Si on essaie un peu de mettre ce que moi je propose ici en application, eh bien, je pense que les processus de pacification, on ne peut pas laisser ça du jour au lendemain. C'est dans un seul jour qu'on peut retrouver ça. Voilà un peu ce que j'avais à dire aux auditeurs qui sont en train d'écouter la radio.
Merci beaucoup, Jules. Vous recommandez aux hommes politiques de parler le même langage et aussi à la RDC de négocier avec l'agresseur réel. Vous, là, vous faites allusion à Kigali et à Kampala. Et aussi, vous, en fait, orienter les politiques à pouvoir penser à la formation des militaires et aussi à, aux conditions sociales hein, des hommes de troupes et aussi des hommes en uniforme. C'est vrai, ça nous rappellerait, ça nous permet de rappeler à tous les auditeurs cette loi qui venait d'être promulguée sur le statut portant en fonctionnement de FRDC et même de la police. Merci beaucoup d'avoir appelé. Nous prenons Crispin qui est à Kananga. Bonjour Crispin.
C'est Valentin.
Voilà, Valentin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour, monsieur Gérard.
Voilà, Valentin, vous avez la parole.
D'accord. Je voudrais être très bref. Je voudrais m'adresser à M. Dominique en dernier lieu. En premier lieu, je voudrais avoir ceci. Vous savez que c'est un mi-cœur qui frappe le Congo.
Oui, Valentin, rapidement, vous n'avez que 30 secondes. Valentin, rapidement, vous n'avez que 30 secondes.
Bon, c'est une mise en scène de la communauté internationale qui a imposé au Congo à recevoir des reflets rwandais en 94. Obligatoirement, ces reflets sont restés ici pour nous causer des torts. Et je demande à M. Dominique, quand il a parlé que l'économie du sous-sol congolais est enrichie de beaucoup de matières qui doivent profiter les pays voisins, c'est bien. Mais dans quel pays du monde, en France ou aux États-Unis, les ressources sol profitent à tout le monde et pas les des autres? Il faut des négociations légales.
Donc là, vous soutenez des négociations, l'option de négociation comme votre prédécesseur?
Non, non, les négociations, j'ai dit, pour soutirer les minerais. Et j'ai puisque M. Dominique a dit qu'avec ce que le Congo a comme matière première, tous les pays voisins emboîtent les pieds pour se soustraire des minerais ici pour leur vie. Maintenant, le Rwandais est devenu plus riche. L'Angola et les Ouganda, voilà, la
merci,
même chose.
Voilà, merci beaucoup.
Mais je sais que même avec les armes qui sont en train, s'il vous plaît, avec les armes qui sont en train d'utiliser, je pense que le Congo est rempli de beaucoup d'académies militaires de formation. Ce ne sont pas les militaires qui parlent au Congo, mais c'est le comité international qui est en train de faire les machinations.
Merci
nous
beaucoup,
sommes
merci.
Prêts à attaquer le Rwanda même dans son dernier retranchement.
Merci beaucoup, Valentin, d'avoir appelé.
Avec
merci beaucoup.
081-890-6315.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, Dominique Werth, vous êtes analyste politique. On va conclure avec vous. On va tout de même aider, comme nous l'avons dit en début de cette émission, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Mary Robison a déclaré à la presse le mercredi 4 septembre qu'après le succès militaire des FRDC et des forces de la MONUSCO sur l'M23, il y a une fenêtre pour le progrès politique. Et la question que nous avons posée, que faudra-t-il pour faire avancer les processus de pacification de la région? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette émission?
Mais écoutez, moi je pense qu'on peut retenir en tout cas deux choses. La première chose, il y a maintenant un consensus, et si vous vous rappelez vos précédentes émissions il y a 6 mois ou même un peu plus,
oui.
Moins, l'option militaire chez vos auditeurs était tout le temps celle qui était prise en dernier ressort. Tout le monde était beaucoup plus prêt à dire il fallait négocier, il faut parlementer, il faut discuter, il faut se retrouver. Ici, on sent bien qu'il y a un changement dans les auditeurs, mais je pense que c'est aussi dans la population pour être ici depuis le début juillet. Il y a vraiment une fierté nationale qui remonte, congolaise. Et je pense qu'un de vos auditeurs, quand il disait qu'une des pistes de solution interne, c'est surtout faire en sorte que les hommes politiques, ou en tout cas les autorités morales de ce pays, soient toutes derrière l'idée de l'unité du territoire et de l'intégrité du territoire. Et donc aujourd'hui, l'option militaire semble celle qui va peut-être permettre de pousser dans ce dernier retranchement la communauté qui aujourd'hui soutient le M23 et toutes ses forces négatives, la communauté régionale, que ce sont les pays voisins. Et donc je pense que l'option militaire est sans doute celle aujourd'hui qui a la plus grande faveur. Maintenant, je pense qu'il faut évidemment pas du tout oublier la négociation politique et que les deux peuvent aller de front. Et trois, je pense, par rapport à votre dernier auditeur, que la solution aussi sera, je pense, sur une communauté économique. Alors, il y a des bases légales qui existent actuellement, notamment au niveau de la CPGL, au niveau de la CIRGL. Il y a des compétences pour ces structures régionales qui sont économiques. Le Congo ne va pas construire un mur comme Israël est en train de le faire avec la Palestine. Dans ce sont mes ressources, je vais créer un mur de 4 mètres de haut tout le long de ma frontière parce que personne ne peut venir chercher mes ressources. Non, je pense qu'il faut avoir une dynamique régionale qui fait que ces ressources, même si elles sont sur le sol congolais, eh bien, elles peuvent profiter à tout le monde, pour autant, évidemment, qu'il y ait un mécanisme de partage
et surtout de coopération. Merci beaucoup. Voilà, dommage, on ne saura pas aller plus loin avec vous, Dominique Vert, le temps nous fait défaut. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission avec une attention soutenue. Nous prenons rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.